Parole d'auteur.
Étrange. Vous avez dit étrange. Tel est le titre de recueil de nouvelles fantastiques que nous allons évoquer aujourd'hui avec son auteur, Monique Thomière. 28 nouvelles donc, brèves, voire très brèves, qui nous font voyager dans le temps et l'espace, en compagnie de personnages le plus souvent ordinaires, aspirant à une vie tranquille, et qui se trouvent confrontés à des situations parfois burlesques, le plus souvent tragiques, toujours énigmatiques. Jusqu'à la chute, pas toujours mortelle, heureusement. J'accueille donc aujourd'hui avec grand plaisir Monique Thomière, que notre radio a déjà rencontrée lors d'une précédente parution. J'espère que nos fidèles auditeurs que je salue ici auront envie de plonger dans ces micro-histoires si bien ficelées, puisque pour le lecteur, le seul danger est d'en devenir accro. Bonjour Monique, peut-être un bref rappel biographique pour mieux vous situer. Vous êtes née à Carcassonne dans les années 60, d'un père receveur des postes, ce qui vous a conduit à pas mal de déménagements. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Alors sur le déménagement, ça a été quelque chose de très pénible pour moi parce que j'aurais aimé vivre toute ma vie exactement au même endroit, avoir des amis d'enfance que j'aurais conduit à l'âge adulte. Et là, je me suis retrouvée un peu déracinée. Mais bon, j'ai fait avec.
Très bien. Vos études ?
Alors, j'ai fait des études de droit. Je suis titulaire d'une maîtrise en droit. J'ai beaucoup aimé cette matière. C'est quand même la règle du jeu des relations sociales, humaines, entre pays, et puis le garant de la liberté.
Tout à fait. Et puis, le droit nous indique une voie.
Aussi. Alors bon, je ne sais pas si c'est dû à mes études, mais enfin, j'ai un goût assez prononcé, je dirais, pour le respect des règles du jeu, d'où peut-être mon écriture un peu, comment dire, certes, les méchants disent académique, les plus gentils disent quel mot avez-vous employé
Les plus réalistes disent classique. Les plus,
voilà. Classique, oui. Voilà. Voilà, tout à fait.
Peut-être, effectivement, mais on peut voir ce que vous dites, effectivement, comme quelque chose de peut-être classique ou académique, mais c'est aussi peut-être imprégné de cette rigueur qu'implique le droit. Et ça, un écrivain, il est obligé d'être rigoureux avec sa matière.
Oui, je suis très rigoureuse. Et quand j'entends des journalistes ou des personnages politiques nous annoncer que le président, il a dit, ou que l'ensemble des députés ont voté, bon, ça ne me fait pas dresser les cheveux sur la tête, mais ça m'énerve un peu. Je me souviens de notre institutrice, elle aurait sauté au plafond, c'était inadmissible.
Bien sûr. Après donc ces études de droit, vous travaillez de manière tout à fait... légitime, classique, et vous travaillez à la Poste, je crois.
J'ai commencé par travailler à la Poste avant de bifurquer vers France Télécom, qui est devenu Orange.
D'accord. Et donc, ce travail se situait plutôt en région parisienne, à Paris, je crois.
Alors, forcément, j'allais dire, au début, on est toujours muté à Paris ou en région parisienne. Et puis, grâce à un heureux hasard, j'ai bénéficié d'une délocalisation du service où je travaillais, et ce qui fait que j'ai pu venir à Toulouse et y rester jusqu'à la retraite.
Très bien. Retrouver le Sud-Ouest.
Voilà.
D'accord. Donc, dans tout ce que vous nous décrivez de manière relativement succincte, je ne se détache pas véritablement d'éléments déclenchants de l'écriture. Il y a peut-être une succession d'événements qui sont plus ou moins agréables ou qui ont pu pousser à l'écrit. Mais d'où vous vient alors cette envie d'écrire ?
Eh bien, disons, j'ai toujours eu envie d'écrire. Et petite, j'écrivais des petites historiettes du même genre que le Clan des Sept, le Club des Cinq, que je dévorais. J'ai toujours aimé écrire, puis j'aime, j'allais dire, le crissement de la plume d'oie sur le parchemin, ça m'enchante. Écrire au porte-plume aussi, bon, évidemment, là j'ai même abandonné le stylo, j'écris mes textes grâce au clavier de mon ordinateur. Mais en fait, j'aime bien l'écriture, c'est quelque chose qui m'enchante.
Oui, même le côté sensuel de l'écriture.
Tout à fait,
en fait.
Oui.
Et vous avez pu transposer la sensualité de la plume sur la sensualité des mots, en somme.
Oui, en fait, ce sont les mots, quelle que soit la façon de les agencer, que ce soit à la plume ou au clavier, c'est quand même une chose agréable.
D'accord. Alors, à ce jour, vous avez quand même publié un certain nombre de textes. Donc, vous me direz si je suis juste. Donc, vous avez commencé par Le sens dessus-dessous, des apparences,
oui.
Publié chez Hasard Édition, puis Jaune cerise, chez Vidence. Ensuite, Moi, ce que j'en dis,
oui.
Au Lys Bleu. Perdition, de nouveau chez Hasard. Et enfin, Étrange, dont nous parlons aujourd'hui, toujours au Lys Bleu.
Voilà.
Et nous attendons donc un sixième ouvrage.
Voilà, je suis en train d'écrire un roman qui sera mon sixième ouvrage. Mais enfin, c'est bien parti, je suis contente, je suis ravie, j'écris. J'écris quand je veux, ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est vrai que l'écriture, c'est quasiment une fonction divine. On crée des personnages. On les tue, hein, si on en a assez. On leur fait faire ce qu'on veut, on les laisse se débrouiller. Enfin, c'est génial.
Oui, alors, roman et nouvelles, ce n'est pas tout à fait la même inspiration. Ni le même élan, ni le même temps d'écriture. Évidemment, un roman est souvent plus long à accoucher, à mettre sur papier ou sur ordinateur. Quelle forme vous plaît le plus ? Est-ce que c'est différent pour vous, pas différent ?
J'allais dire, les deux me conviennent parce qu'en fait, je n'écris pas mes romans en commençant par le début et de façon linéaire jusqu'à la fin. J'ai des scènes qui m'apparaissent, j'écris, je la mets de côté. Une autre scène, j'écris, je la mets de côté. Ça me fait à la limite de petites nouvelles qui après vont être agencé selon le fil conducteur de mon roman. En fait, mon fil conducteur, il est très succinct. Et après, les personnages agissent de telle et telle façon, il y a forcément des conséquences, ils ont forcément des amis qui eux-mêmes ont des aventures, et tout ça donne un roman.
Donc le petit écheveau se fait un petit peu en déroulant la pelote.
Voilà, tout à fait. C'est un patchwork.
D'accord. Oui, vous nous faites des patchwork.
Voilà, mais qui se tiennent quand même.
Bien sûr. Vous disiez que, quand on discutait un petit peu toutes les deux, que vous préfériez le roman, au moins pour les lire, vous préférez les romans. Vous m'avez dit, comme la cuisine, j'aime manger le gros plat unique et familial plutôt que picorer plusieurs petits plats.
Tout à fait, c'est exactement ça. Je suis pour les grosses choses. Par exemple, au point de vue cadeau, je préfère un énorme cadeau plutôt que plein de petites bricoles. Enfin, je ne sais pas, je suis entière. J'aime pas les fioritures. C'est oui ou c'est non. Bon, avec quelques nuances quand même, je ne suis pas bornée. À ce point.
Oui, mais vos personnages sont quand même dans l'ensemble assez nuancés.
Certes, il faut bien, sinon ce serait sans intérêt. Il faut bien qu'il leur arrive quelque chose qui va leur permettre de dévoiler ce qu'ils cachent, en fait. Parce qu'on est toujours dans l'apparence. On essaie de montrer aux autres ce qu'on voudrait leur faire croire ou ce qu'on voudrait être. Et puis, comme on dit, le naturel revient au galop. Et puis là, des fois, on se montre sous un jour qui n'est pas forcément terrible.
Oui, c'est un petit peu ce que vous disiez aussi. Écrire, pour vous, c'est un plaisir, mais qui doit être utile. Il y a une fonction un peu utilitaire pour vous dans l'écriture. Un moyen de faire le ménage dans la pensée du monde, pour clarifier certains conflits intérieurs. Et les personnages, ils ont un rôle particulier dans ce...
Voilà, en fait, mes personnages sont des outils. Je les mets dans des situations que je n'ai pas vraiment bien assuré. Je leur fais dire ce que j'aurais voulu dire et que je n'ai pas dit. Et puis après, ils se débrouillent avec la situation. Et puis en général, comme je prends mon temps, j'ai le temps de réfléchir, je leur laisse une issue correcte. En fait, même dans les films que je regarde, je suis emballée par ces personnages comme James Bond. Quelle que soit la situation, il sait toujours que faire, il le fait toujours bien et ça réussit. Tandis que moi, je suis là, je ne sais jamais ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, j'ai peur de me tromper. Enfin, c'est terrible. Tandis que quand j'écris, je peux revenir en arrière. Enfin, bref, ça me convient tout à fait.
Vous trouvez un rôle de démiurge que vous, ah oui, que vous aimeriez trouver parfois dans la vie ?
Ah, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Au lieu de subir, entre guillemets, les événements, bon, ben là, c'est moi qui décide.
Et oui. Sur sa page, on est maître de sa page, en fait.
Tout à fait.
Même si parfois, vous avez des difficultés avec cette page ? Est-ce que ça a un côté un peu combat parfois ?
Pas forcément, puisque à la limite, j'ai tout mon temps. Donc, je peux laisser reposer la sauce, comme on dit, et reprendre quand ça me vient. J'écris sous le coup d'inspiration. Quand je n'ai pas l'inspiration, eh ben, je laisse tomber. Dans la mesure où je ne suis pas sous contrat avec une maison d'édition qui exige tant de pages par jour à date fixe, j'écris quand je veux et quand ça me vient. Et puis, je peux revenir sur une chute qui ne me plaît plus. Je peux changer la vie d'un personnage que j'ai fait mourir parce que je le trouvais nul. Puis je me dis quand même, le pauvre, bon, finalement, c'est pas de sa faute. Allez, hop, et on repart.
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des personnages récurrents ?
Ah, j'ai envie. Des personnages que j'ai bien aimés dans l'un de mes romans. Enfin, de l'autre côté, j'ai pas 3000 romans. Hein. Il s'agit d'un détective privé qui s'appelle Baudouin Charançon, et que j'ai envie d'utiliser dans celui que j'écris. Après tout, il peut bien revenir, ça ne mange pas de pain, et puis bon, il m'est sympa, et voilà.
En plus, c'est aussi fréquent chez les détectives.
Oui.
Souvent, on voit apparaître comme ça des personnages, des détectives. Ils vont d'un roman à l'autre, on ne sait pas toujours ce qu'ils ont fait entre-temps,
oui.
Et ça ne gêne personne.
Ouais, ils ont le droit de vivre plusieurs vies.
Donc, tout ça nous amène, vous dites un policier, tout ça nous amène à nous demander un petit peu quel est le type de littérature que vous aimez et que vous pratiquez.
Alors, que j'aime ? J'aime toutes les histoires, tous les romans qui posent question. On se demande ce que va faire tel personnage, on se demande qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé. Pas des histoires, j'allais dire, linéaires ou avec des descriptions d'un personnage du début à la fin qui ne m'intéressent absolument pas. Donc j'aime bien les romans où il y a des intrigues. D'un autre côté, comme j'écume les boîtes à lire de notre bonne ville de Toulouse, je lis de tout. Dernièrement, je suis tombée sur un livre d'Edmond de Charleroux. Edmond de Charleroux, Adrienne. Eh bien, je vais lire ce bouquin-là.
Bien sûr.
Et je tombe sur des pépites d'antan que je n'aurais jamais lues sans ces boîtes à lire. Ce qui fait que ça ouvre
Des horizons. Bien sûr. Donc, il y a à la fois une prédilection pour un certain type de lecture,
voilà,
et en même temps des échappées.
Tout à fait, oui.
Un petit peu plus variées.
Voilà, oui.
Avec quand même une prédilection pour la littérature fantastique, je crois.
Ça, j'adore le fantastique. Justement, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours une énigme que je suis bien incapable de déficeler moi-même. Et j'ai toujours la solution à la fin.
Eh oui, alors ça, c'est...
Ça, parce que si je n'ai pas la solution, je reste sur ma fin. Bon, c'est assez négatif. Moi, je veux la solution.
Ça vous différencie d'un certain nombre d'auteurs. Parce que, après tout, certains auteurs privilégient les fins ouvertes, finalement.
Oui, mais non, moi je trouve que c'est... Enfin, chez moi, c'est de la paresse ou de l'incompétence. D'ailleurs, dans l'une de mes nouvelles, je laisse une ouverture, parce que je n'ai pas été fichu de trouver une réponse. C'est dans La Guinguette à Milou. Le personnage qui se retrouve plongé dans l'illusion de scènes qui datent de la Première Guerre mondiale, à la fin se demande « Mais qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire ?» Alors comme je n'ai rien trouvé, j'ai dit « J'ai laissé la question en suspens, alors le lecteur se débrouille, il fait ce qu'il peut, il croit que je lui laisse sa liberté, en fait je n'ai pas été fichu de trouver la réponse. »
Moi, j'ai bien aimé justement avoir la liberté. De... Ben,
il faudra me dire la solution trouvée parce que.
Ben, je n'en ai pas trouvé non plus. Ben. Mais c'est une des très très belles nouvelles de ce recueil, la Gaguette à Milou. Et je trouve que justement, avait-elle besoin d'une. C'est très bien qu'elle n'ait pas de fin.
Oui, c'est.
Très 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 claire, très précise, parce que. Ça fait partie du brouillard de l'histoire, en
oui,
fait.
Oui, oui, oui. Là, c'était utile.
Oui, je crois que là, vous avez bien fait de ne pas...
Oui, de ne pas trouver la solution.
De ne pas trouver la solution. Dans d'autres nouvelles, au contraire, la solution qui arrive comme une chute assez brutale ben, prend tout son sens. Hein, je pense
oui,
à « Femme, je vous aime », dont nous ne dévoilerons pas la fin.
Oui.
Même si on oui. s'y attend un petit peu.
Quand on connaît le personnage principal, bon.
Quand on. Ben, on ne le connaît pas tout de suite.
Oui, certes. Certes, oui, tout à fait. Je ménage un certain suspense.
Et c'est la fin qui, justement, va marquer comme un coup près.
Voilà, oui. Qui ramène les choses sur terre.
Voilà. Alors, c'est vrai que peut-être cette dynamique-là est plus facile avec les nouvelles qu'avec un roman.
Oui, parce que j'imagine pas de laisser un roman sans fin.
Voilà, et là, le fait d'avoir des chutes comme ça, bien nettes, bien rapides, ça va bien avec la nouvelle, quoi.
La nouvelle qui est courte, enfin les nouvelles courtes, oui, ça va bien. Puis sinon, un roman, ça me paraîtrait inachevé.
Oui.
De ne pas, bon, laisser un avenir... de toute façon, ça finit toujours bien. Enfin, de notre côté, j'en ai écrit que deux. De notre côté, bon, j'avais pas...
Ah ben...
Ça aurait pu finir mal. Mais j'aime bien, je veux pas laisser mes personnages dans la peine.
Vous avez raison.
Je les aime bien, finalement.
Vous avez raison de pas vouloir les laisser dans la peine. J'ai d'autres questions à vous poser, mais nous allons peut-être nous diriger lentement vers la première pause musicale. Vous avez choisi donc une musique de film.
Oui.
Vous avez choisi d'ailleurs deux musiques de film.
De...
Mais là, c'est donc la musique de fin du film Shining.
Oui.
Et il s'agit de Midnight, The Stars and You.
Ouais.
Donc de Al Allwhite. Ouais.
Thank you. parole d'auteur.
Nous reprenons donc notre émission en compagnie de Monique Thomière, qui nous parle de son travail d'écriture, en particulier autour de son recueil Étrange, vous avez dit Étrange, recueil de 28 nouvelles. Mais plus généralement, on va parler de sa manière d'écrire, de ses thèmes de prédilection et de ce qui fait sa spécificité en tant qu'auteur, à mon avis aussi. C'est un point de vue un peu partial peut-être, mais...
Ma foi.
Donc on a vu que vous aimiez beaucoup les énigmes, les histoires qui ont une fin.
Oui.
Et une fin bien, bien claire, bien marquée. Vous êtes aussi intéressé par les vies qui basculent dans une autre temporalité. Je crois que c'est l'une des choses qui vous fascine, c'est la manière dont on peut glisser finalement, de manière parfois presque imperceptible, dans un temps autre, dans une autre époque. La musique que nous venons d'entendre, donc la musique du film Shining, avait un petit côté un peu rétro, et je crois que vous êtes sensible à ce côté un peu passé, sans être... vous êtes peut-être un peu nostalgique, mais sans vouloir y vivre, sans illusion.
Oui.
C'est une nostalgie sans forcément enjoliver le passé, mais c'est prendre plaisir à y aller de temps en temps, peut-être par l'écriture.
Oui.
Pouvez-vous nous en parler un peu ?
Bien sûr, oui. Oui, le passé, certaines traces du passé me touchent. Par exemple, une petite gare désaffectée, avec de l'herbe qui pousse entre les rails. Je me dis, il y a eu des gens là qui ont attendu des trains sont passés, puis maintenant, c'est fini, ça ne bouge plus. Par exemple, pour écrire la guinguette à Milou, enfin, j'ai été inspirée par la vision d'une un ancien bistrot. Je l'ai reconnu au fait à la devanture, là, toujours en bois, avec le nom du bistrot en lettres quasiment effacées, et avec un petit terrain mangé par les herbes folles, où il y avait une table rouillée, quelques chaises, et puis des détritus entassés. Et je me suis dit qu'à une certaine époque, des gens étaient là, ont peut-être mangé, ont dansé. Ça a été, j'ai pensé à la guinguette à Milou, ça m'a inspiré ça. J'aime bien, ça me touche. Et je reviens à cette musique de Chagny, la dernière image où on voit le héros Nicholson sur une photo d'époque et avec cette musique. Alors, c'est vraiment l'énigme dans sa splendeur, ce qui m'enchante. Déjà, le côté rétro. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là alors que ce n'est pas son époque? Et vraiment, ça m'a emballé. J'ai mis un temps fou à retrouver l'enregistrement de cette musique, qui m'emballe. Et c'est ça qui me plaît, j'aime bien.
L'étincelle vient souvent d'une situation conflictuelle, émouvante ou drôle, et vos personnages sont un peu contraints de s'y soumettre, en fait. Trop de morts, a dit une de vos lectrices.
Oui.
Mais pour vous, je crois, c'est au personnage de se débrouiller, en fait.
Tout à fait. Et puis bon...
C'est leur liberté.
La mort, ça fait partie de la vie, puis ça intéresse la partie. J'ai envie de dire, c'est un peu comme un flipper dont toutes les parties seraient gratuites s'il n'y avait pas la mort. Et puis bon, dans l'écrit, ça ne mange pas de pain. On se débarrasse d'un personnage... C'est simple, il meurt. Bon, rideau, on passe à autre chose. Et puis, bon, c'est le point d'orgue dans les écrits, je trouve. C'est quelque chose d'énorme. Pointe à la ligne, c'est fini. Et voilà. Bon, c'est peut-être cruel, mais bon.
C'est fini, vous dites vite.
Enfin, pour l'intéressé.
Vous le dites vite parce que on rencontre quand même beaucoup de gens dans vos écrits et des gens qui ne sont pas... Il y a un peu de tout comme personnage. Nous avons des femmes d'âge mûr, un jeune couple, beaucoup d'enfants, mais aussi une sorcière, un chat, un fantôme. Fantôme, c'est quand même pas forcément très concret.
C'est vrai.
C'est une espèce de passerelle... au-delà de la mort, finalement.
Mais en fait, mes personnages sont des outils pour travailler l'histoire étrange. Donc, bon, un fantôme, à la limite, pourquoi pas. Mais chacun de ces personnages a l'âge, la situation, l'époque qui va se retrouver dans une situation inattendue, incongrue, et qui va devoir s'adapter. Et il va faire ce qu'il peut. C'est-à-dire, je vais lui faire faire ce que j'aurais voulu en de telles circonstances, sans trop me soucier des conséquences, puisque de toute façon, je peux revenir en arrière. Et puis, ce n'est pas moi, c'est eux. Alors bon.
Ce côté, effectivement, d'aller et retour entre le présent et le passé, vous amène parfois à des recherches historiques. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Ou est-ce que c'est juste un support?
C'est juste un support parce que, bon, si j'introduis un personnage historique dans l'une des nouvelles, bon, il faut que je tienne compte de la réalité de ce personnage. Donc, savoir à quelle époque il était là, ce qu'il a fait réellement, bon, et que ce que je lui demande de faire corresponde un peu à ce qu'il était. Mais ce n'est qu'utilité. Je ne veux pas écrire des bourdes qui vont peut-être choquer un lecteur qui serait féru d'histoire.
Oui, donc pas forcément chez vous de descriptions à la Balzac non. Qui vont vous appesantissez pas sur les objets, la manière dont les gens s'habillent. Ou... Il y a juste, c'est vrai que dans vos nouvelles, il y a juste les objets nécessaires en fait.
Voilà, alors disons... Pour situer une scène dans le temps, par exemple, un jeune homme va dans une boîte de nuit, il va entendre telle musique, donc il va le situer à son époque. À des détails comme ça, un film qui est sorti en telle année, il va le voir. Ça permet de situer, mais sans plus.
C'est le but.
N'est pas de... Et j'évite les anachronismes, bon, autant que faire se peut.
Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est vrai, je vais rebondir un peu là-dessus. Je trouve que la musique a une grande place dans votre travail. Déjà, dans la manière dont vous utilisez la langue. C'est une langue très, très riche, très musicale. Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous avait taxé parfois, ou que vous vous taxiez vous-même d'académique. Moi, je ne suis pas là-dessus d'accord.
Oui.
Je pense que vous utilisez la richesse de la langue. Et c'est vrai que peut-être nos contemporains ne piochent pas aussi facilement dans un vocabulaire varié, riche et parfois désuet, peut-être. Mais je trouve que justement, c'est une grande partie du charme de vos textes, c'est que justement, il y a cette richesse de vocabulaire qui peut dater certains textes, mais qui correspond aussi à personnages. Vous êtes aussi capable de faire des textes avec des petites nouvelles parlées par un jeune, avec un langage qui serait un langage d'un jeune contemporain.
Oui.
Et les références d'un jeune contemporain.
Oui, ça fait partie des références quasi historiques. Un jeune ne parle pas comme une personne plus âgée. Mais j'aime bien l'écriture, les phrases bien construites. J'ai horreur des répétitions. Alors là, les répétitions,
et oui.
Je cherche toujours des synonymes. Quelquefois, je me laisse aller à une allitération. J'aime bien ça. Et j'aime bien le mot juste. Qui
oui.
dit bien ce qu'il veut dire, de façon, bon, à la limite, à ce que je sois bien comprise, mais c'est aussi pour moi. Et puis,
bien sûr.
Je pense à mon ancienne institutrice qui a été une bonne institutrice à qui je garde une grande affection.
qui vous a marqué.
Oui, qui est vraiment qui ne tolérait pas l'emploi de répétitions, de mots déplacés. Elle faisait la guerre au « et ».
Ah oui, alors là, je comprends ça.
Elle disait, c'est une perle noire dans un collier blanc. Enfin bon, alors j'évite, je suis encore ses conseils.
Voilà, vous tentez de garder un collier de perles immaculé.
Voilà, tout à fait.
Vos textes n'hésitent pas à avoir des références explicites aussi à des événements ou des œuvres culturelles, donc pas seulement pour situer l'époque de votre personnage, mais aussi, je pense, pour, c'est ce que vous me disiez, pour nourrir votre texte. C'est ainsi que nous avons des références on retrouve Lewis Carroll ou des événements comme des crimes célèbres.
Oui, tout à fait.
Donc, vous vous appuyez sur des livres, des films, des musiques. Donc, on a vu que vous aimiez beaucoup la musique.
Oui, j'aime bien. J'allais dire, le fond sonore de mes écrits, c'est l'humour qui permet de faire passer beaucoup de choses. On dit que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Je dirais, bon, c'est simplement une façon de sourire des événements et puis aussi de désamorcer des situations un peu sombres. Mais pour en revenir aux événements qui me servent de base à une nouvelle, j'ai écrit, je ne me rappelle plus le titre de la nouvelle, j'avais écouté une information qui disait que certains repas de rue comportaient toujours du porc pour que certains musulmans soient écartés, ne puissent pas en profiter. Ça m'a fait, ça m'a révolté. Et je m'en suis servi pour écrire l'une de mes nouvelles, Sandwich d'enfer, je crois que
oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça.
Voilà,
exactement
oui, tellement ça.
C'était choquant, quoi.
Oui, ça m'a révolté.
Je vous comprends bien.
Oui. Par contre, Lewis Carroll, comme le chat était le héros de cette nouvelle, qui se trouve que c'était le chat d'un fantôme. Et qui ?
N'en dites pas trop.
Je n'en dis pas.
N'en
bon.
Dites pas trop.
Très bien. Bon, mais
débrouillez-vous. Mais d'ailleurs, Lewis Carroll, voilà. il revient aussi dans une autre de vos nouvelles, je crois. Oui.
Certes, mais n'en disons pas trop.
Bon, oui. Mais donc, le ressort aussi de vos nouvelles, c'est l'action. Et ma foi, l'action est quand même un des moteurs. Oui, l'action est un des moteurs de vos nouvelles, mais aussi du monde. Et nous arrivons à notre deuxième pause musicale avec la musique de Top Gun, je crois.
Thank you. Parole d'auteur.
Et nous reprenons donc notre causerie avec Monique Thomière autour de son ouvrage Étrange, vous avez dit étrange, recueil donc de 20 nouvelles, brèves, voire très brèves. Et donc nous reprenons en parlant peut-être, nous parlions avec juste avant la musique de Top Gun, Take My Breath Away de Berlin. Nous parlions des références explicites qui pouvaient nourrir le texte de Monique, les textes de Monique. Mais il y a également d'autres références plus indirectes. Moi, j'en ai évoqué avec elle certaines. Elle vous en parlera peut-être sans doute aussi mieux que moi. Moi, j'avais pensé à Jean Rey, à la série des Harry Dickson dans les années 70. C'était une lecture qui était très en vogue. Et il y avait bien cette ambiance aussi, un peu de mystère, de surnaturel parfois, et ce mélange avec des personnages bien campés et beaucoup d'action. On parlait de la musique tout à l'heure, et la guinguette à Milou m'avait fait penser au bal chez Temporel.
Ah oui, oui, oui.
Je crois que c'est le cinéma aussi, nous, dans certaines nouvelles, nous sommes pas loin du cinéma policier ou fantastique américain en noir et blanc des années 30, 30, voilà, 40. Oui. En particulier, j'avais pensé à La Nuit du Chasseur.
C'est vrai, oui.
Et vous avez sûrement, vous, d'autres pistes à nous donner.
La grosse piste, c'est le surnaturel, parce qu'avec le surnaturel, les gens se posent énormément de questions, et puis chacun peut y aller de son folklore. On peut dire ce qu'on veut, apporter les débuts de réponses que l'on veut, et il y a toujours matière à avoir une aventure particulièrement intrigante. Alors, vous l'avez remarqué, me semble-t-il, je suis plus campagne que ville. Et c'est vrai que les coins de campagne me touchent plus que les villes. Parce que bon, j'ai passé toute mon enfance dans un petit village où il y avait de vieilles maisons abandonnées, donc qui forcément étaient hantées par quelques fantômes, moi ça misait entre enfants, et qui avaient toujours un mystère. Et puis ça m'a toujours semblé une vie plus naturelle à la campagne. La ville, pour moi, c'était déjà un endroit où on s'habillait tous les jours en dimanche. Parce qu'on allait à la ville pour voir un oculiste, un spécialiste, et on nous habillait en dimanche.
D'accord.
Et c'était quelque chose de pas naturel, un endroit pas agréable, puisqu'on y allait pour des médecins, tandis qu'à la campagne, c'était la liberté, on pouvait courir partout, faire ce qu'on voulait, on se racontait des histoires, toujours des aventures de nos jeux, et donc les fantômes, ils sont plus dans les trous de campagne que dans les tours d'une grande ville.
Voilà. Pour vous, en tout cas.
Oui, certes, c'est vrai, je vois les midi à ma porte.
C'est vrai que vous parlez peu de... vous êtes dans le fantastique, pas forcément dans la science-fiction.
Voilà, oui.
Hein, on est plus dans un présent qui dérape.
Oui.
Vers le passé ou vers l'ailleurs. Mais on n'est pas dans d'une extrapolation du futur.
Non,
tellement.
Ouais. Disons, moi, ma définition de la science-fiction, c'est plutôt les fusées, les astronautes et les martiens, tandis que
Oui, c'est ça.
Le fantastique, c'est les fantômes. Moi, ce sont les fantômes, les trébuchements là dans l'espace-temps dont avait parlé Einstein au sujet des deux Anglaises au Trianon. Ça, j'adore ça. C'est, j'allais dire, c'est à la fois réel, puisque certains l'ont vécu. Bon, sauf évidemment, ce sont des affabulateurs. Et on n'a pas d'explication. Voilà, ça j'aime bien, qu'on n'ait pas d'explication.
Même s'il y a toujours une fin très claire, il n'y a pas d'explication quand même.
Voilà, il peut y avoir une chute pour le personnage, mais bon, il y a toujours de l'inexpliqué. Et c'est, je veux dire, le jeu reste ouvert, en fait.
Le jeu reste ouvert. Alors, ce qui est intéressant dans vos nouvelles aussi, c'est qu'elles sont toutes donc assez différentes, même s'il y a ce point commun qui structure le recueil. Mm-hmm. Ce point commun de glissement vers de saut spatio-temporel quelque part ou émotionnel. Vous avez une grande diversité de tons et de points de vue. Donc on a parfois un narrateur omniscient, mais le plus souvent on va voir un personnage qui nous apostrophe, donc qui dit je, qui nous explique, qui nous raconte une histoire en somme, et qui l'a vécu. Et voir qui nous interpelle. Hein, certaines sont vraiment tu.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et pas toujours content à l'égard de l'autre interlocuteur. Et donc, nous, le plus souvent, nous sommes mis dans la confidence. C'est ce qui nous rend ces nouvelles si efficaces, finalement, et si proches. Puisqu'on a l'impression d'être un peu... Oui, un peu votre confident.
Le confident, oui, oui, oui.
Oui. Donc, je crois que vous aimez bien cette position de conteuse.
Oui, j'aime bien. Et puis, on me dit qu'avec mon accent, ça passe encore mieux. Et j'ai certaines amies qui, lisant mes quelques écrits, me disent « j'ai l'impression de t'entendre quand je lis tes phrases ». Mais bon, c'est vrai que ce sont des histoires. Et le confident, en fait, dans ce que j'écris, c'est moi, évidemment, qui me fait des confidences à moi-même, qui me pose la question. Et je me sers du lecteur. Je lui pose une question, comme il n'est pas là pour me répondre, c'est moi qui vais essayer de trouver une réponse. Et puis là, je peux affirmer les mensonges que je me fais à moi-même, les histoires que je me raconte pour cacher mes peurs, pour me donner le beau rôle. Puis voilà, tout en révélant mes faiblesses aussi, après tout.
Eh oui, le lecteur est un... On est dans un jeu de miroir, en fait,
tout
avec
à fait.
Le lecteur.
Mmh. Mmh.
Parmi tous ces personnages, donc, il y en a des, comme vous dites, qui sont plus ou moins recommandables, plus ou moins de bonne foi. Il y a un statut quand même particulier et quelque part très émouvant, je trouve, un statut particulier pour les personnes âgées, les enfants. Ou les personnes peut-être qu'on aurait tendance à croire fragiles et qui, chez vous, ont vraiment un accès privilégié à ce monde de l'invisible et de l'amour aussi.
Oui.
Ouais. Ils nous font vraiment... Oui, ils ont des tenteurs de quelque chose, d'un passage vers un monde qui serait moins dur, moins factuel... Moins faux aussi.
Oui, je me dis que les enfants n'ont pas d'arrière-pensée, de perversion. Ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils veulent, et donc ils sont ouverts à toutes les possibilités, puisqu'ils n'ont pas non plus de censure, de se dire ça ne peut pas exister, donc je laisse tomber. Ils marchent, j'allais dire tête baissée. Non, ils marchent d'un pas tranquille vers l'étrange. Et puis les personnes âgées, je me dis que ce sont à nouveau des enfants. Ils ont vécu, ils ont eu des expériences. Et puis là, ils sont dans une période, j'allais dire, de repos. On n'exige plus d'eux qu'ils agissent. Alors donc, ils peuvent penser, réfléchir, se souvenir aussi. Ce qui fait que ça leur laisse... une grande ouverture pour la vie et tout ce que ça peut comporter d'étonnant.
Oui, C'est vrai qu'il y a, cet émerveillement, finalement, de l'enfance qui se retrouve chez certains de vos personnages âgés,
oui,
finalement.
Oui.
Et c'est ce qui donne beaucoup de chaleur aussi à, à vos textes.
Oui, j'aime bien mes personnages, oui, quel que soit leur âge.
Mais donc, il y a aussi une dimension dans vos textes qui est un... Qui leur donne un côté léger, même si on vous a parfois reproché amicalement trop de morts, on n'y croit pas tout à fait parce qu'il y a, tout cet esprit de dérision, d'humour, mais aussi de dérision et de jeu avec l'absurde. Je crois que vous aimez bien mettre en avant la... l'absurdité de notre monde, les petits travers de notre monde contemporain.
Oui, il y a beaucoup de... Enfin, je trouve des choses qui sont complètement absurdes et que souvent, personne ne relève. Et les gens qui continuent à produire cette absurdité ne s'en rendent même pas compte. Et on vit des choses complètement affolantes basées sur des événements qui sont complètement délirants, quoi.
Oui,
et c'est vrai que bon.
La manière dont, dont je pensais par exemple Scoop d'enfer ou
oui.
À Adèle, agent de suppression. Là, vous taquinez vraiment bien nos travers de langage, notre goût du sensationnel.
C'est vrai que toute l'hypocrisie des journalistes,
oui,
des paparazzi. Oui, de toute cette, j'allais dire, malhonnêteté. Sous prétexte d'information ou de vérité. C'est vraiment... ouais, c'est... Je le... Ça me révolte pas, faut quand même pas exagérer. Mais ça me dérange quelque part.
Mais je trouve que justement, vous arrivez à trouver le bon niveau d'intervention. C'est-à-dire, vous nous faites... vous nous permettez de nous rendre compte de certains travers... On les voit, on les prend en compte, on ne s'appesantit pas dessus. Et justement, on ne s'installe pas dans une révolte qui ne servirait pas forcément à grand-chose.
Je pense que je les révèle.
Voilà,
je le montre. Et puis on peut se dire, tiens, oui, c'est souvent le cas avec certains journaux, certains animateurs de magazines qui font n'importe quoi.
Qui font du sensationnel.
Du sensationnel, de faire de l'information, quoi.
Voilà. Oui, vous avez raison. Il y a beaucoup de sensationnel dans notre époque, de superficialité aussi, sur laquelle certains personnages se reposent, mais vous montrez que justement, elle ne mène à rien. Il y a aussi un personnage qui peut être important, c'est l'argent. Donc, l'argent, le rôle de l'argent, la manière dont il va induire certains comportements regrettables.
Ah oui. C'est le nerf de la guerre,
c'est
oui.
C'est le nerf de
et
la guerre.
Et ça peut conduire à n'importe quoi,
voilà.
À des assassinats, des hold-up et puis des...
Femmes, je vous aime, par exemple.
Des séductions mal placées ou intéressées. C'est vrai, bon, tous les malfrats... sont obnubilés par l'argent. Ils veulent de l'argent et puis pointe à la ligne. Et tous les moyens sont bons, d'où l'absence de règles, de
bien
respect
sûr.
De la règle du jeu pour une juriste comme moi. Bon,
ça vous touche forcément
ça,
de
ben
près.
Oui, c'est, oui. Moi, je respecte. J'aime bien les règles du jeu. Ça permet de savoir où on est, ce
bien
qu'on
sûr.
Peut faire. Et puis, bon, ça roule bien.
Mais donc, il y a à la fois ces personnages qui auraient besoin d'être recadrés de temps en temps, mais aussi tous ces personnages si attachants que j'ai trouvé très, très émouvants. Émilienne dans La guinguette à Milou. Et puis aussi le personnage de la vieille dame dans Oh la gourmande, qui fait le lien justement entre l'enfance et la vieillesse.
Oui.
Et c'est ces personnages qui font que qui donne aussi la chaleur de l'amour, de l'empathie que vous savez avoir avec
voilà,
vos personnages.
D'autant plus que l'histoire là, bon,
de
la vieille dame d'en haut, la gourmande, elle fait des allers-retours avec son enfance
bien
et
sûr.
Elle est à la fois la vieille dame et la petite fille.
Je vois, Monique, que le temps qui nous est imparti s'achève. est passé. Est-ce que vous auriez un mot de la fin ?
Oui, ben, d'abord, merci. Merci, Jeanne, pour cette belle présentation de mon
plaisir.
Livre. Oui, oui, qui me donnerait envie de le lire si je ne l'avais pas écrit.
Ben, j'espère que nous allons donner cette envie à nos lecteurs, à nos auditeurs, qui deviendront bientôt vos lecteurs. Quant à vous, en effet, chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Présence et sur toutes les plateformes numériques en podcast. Thank you.